Appendice F. Chapitre 1. Langue et peuple du Troisième Âge. La langue représentée par l'anglais tout au long de ce récit, soit le français pour la présente traduction, était l'occidentalien, le parler commun des régions occidentales de la Terre du Milieu au Troisième Âge. Au cours de cet âge, cet idiome devint la langue maternelle de presque tous les peuples doués de parole, sauf les elfes, au-dedans des frontières des anciens royaumes de Gondor et d'Arnor, c'est-à-dire tout le long du littoral, d'Umbar jusqu'à la baie du Forokel dans le nord, et à l'intérieur des terres jusqu'aux montagnes de brume et à l'Eiffel d'Oif. Il s'était également répandu au nord le long de l'Anduin, gagnant les terres à l'ouest du fleuve et à l'est des montagnes jusqu'aux champs de Flambe. À l'époque de la guerre de l'Anneau, au tournant de l'âge, il subsistait comme langue maternelle à l'intérieur de ces mêmes limites, bien que l'Eregion fût en grande partie dépeuplée et que très peu d'hommes fussent encore établis sur les rives de l'Anduin entre la rivière aux Flambes et le Raoros. Un vestige des anciennes peuplades d'hommes sauvages menait toujours une existence clandestine dans la forêt de Droadan en Anorienne. Et dans les collines de Dunland vivaient les restes d'un peuple séculaire, anciens habitants d'une bonne partie du Gondor. Ces gens conservaient jalousement leur langue, tandis que sur les plaines du Rohan vivait désormais un peuple nordique, les Rohirrim, venus s'y établir quelques 500 ans auparavant. Mais l'occidentalien servait de seconde langue d'échange pour tous ceux qui conservaient leur propre parler, même pour les elfes, non seulement en Arnor et au Gondor, mais à travers les Vaux de l'Anduin jusqu'à la lisière orientale de Grand-Peur. Même parmi les hommes sauvages et les Dunlandais, qui fuyaient tous les étrangers, il y en avait qui le parlaient, encore qu'avec difficulté. Des elfes. Les elfes, à une époque reculée des jours anciens, se trouvèrent divisés en deux branches principales. Les elfes de l'ouest, les Eldar, et ceux de l'est. La plupart des elfes de Grand-Peur et de Lorien étaient de cette dernière souche. Mais leur langue ne figure pas dans ce récit où tous les mots et les noms elfiques sont de forme eldarine. À cette époque, en Lorien, on parlait Sindarin, mais avec un accent, la plupart des habitants étant d'origine sylvaine. Cet accent, jumelé à sa connaissance limitée du Sindarin, dérouta Frodo, comme il est rapporté dans le livre du Thain par un commentateur du Gondor. Tous les mots elfiques apparaissant dans le livre second, chapitre 6-8, sont d'ailleurs Sindarin, ainsi que la plupart des noms de lieux et de personnes. Mais Lorien, Caras Galadon, Amroth et Nimrodel sont probablement des noms d'origine sylvaine adaptés au Sindarin. Les langues eldarines, figurant dans ces pages, sont au nombre de deux, le haut elfique ou Kenya et le gris elfique ou Sindarin. Le haut elfique était une langue ancienne parlée à Eldamar au-delà de la mer, la première à avoir été consignée par écrit. Elle n'était plus usitée comme langue maternelle, étant devenue, si l'on peut dire, une sorte de latin elfique, réservé aux cérémonies et aux sujets plus nobles, en matière de chants et de savoirs traditionnels, pour les hauts elfes revenus s'exiler en Terre du Milieu, à la fin du Premier Âge. Le gris elfique était, de par ses origines, apparenté au Kenya, car c'était la langue des Eldar, qui, parvenus au rivage de la Terre du Milieu, n'avaient pas traversé la mer, mais étaient demeurés sur les côtes, dans les terres du Beleriand. Thingol Cap Grise, du Doriath, était leur roi. Et là, dans le long crépuscule, leur langue s'était transformée, soumise aux changements et aux vicissitudes des terres mortelles, s'éloignant considérablement du parler des Eldar d'outre-mer. Les exilés, évoluant parmi les elfes gris, plus nombreux, adoptèrent le Sindarin pour leur usage quotidien. Et c'était donc la langue de tous les elfes et seigneurs elfes qui apparaissent dans ce récit. Car tous étaient de la race Eldarine, même lorsque leurs sujets étaient issus de peuples moins illustres. La plus noble d'entre tous était la dame Galadriel, de la maison royale de Finarfin, et sœur de Finrod Felagund, roi de Nargothrond. Dans le cœur des exilés, La nostalgie de la mer était une inquiétude qu'on ne pouvait calmer. Et dans le cœur des elfes gris, sommeillait la même inquiétude qui, une fois éveillée, ne trouvait aucun apaisement. Des hommes. L'occidentalien était de la famille des langues des hommes, bien qu'enrichi et atténué sous l'influence des elfes. À l'origine, c'était la langue de ceux que les Eldar nommaient Atani ou Edain, les pères des hommes. En particulier, les gens des trois maisons des Amis des Elfes, qui entrèrent au Beleriand, dans l'ouest de la Terre du Milieu, au Premier Âge. Là, ils vinrent en aide aux Eldar dans la guerre des Grands Joyaux contre le sombre pouvoir du Nord. Après la chute du pouvoir sombre, au cours de laquelle le Beleriand se trouva en grande partie submergé ou détruit, il fut consenti aux Amis des Elfes de passer au-delà de la mer comme les Eldar. Mais les terres du royaume immortel leur étant interdites, l'on détacha pour eux une grande île, la plus occidentale de toutes les terres mortelles. Cette île s'appelait Númenor, l'Occidental. Ainsi, la plupart des Amis des Elfes allèrent s'établir à Númenor, où ils devinrent de grands et puissants hommes et d'illustres navigateurs à la tête de nombreux navires. Ils étaient beaux de visage et grands de stature, et leur longévité était trois fois celle des hommes de la Terre du Milieu. Tels étaient les Númenoriens, les rois des hommes, que les elfes nommaient les Dúnedain. De tous les peuples des hommes, seuls les Dúnedain connaissaient et parlaient une langue elfique. Car leurs ancêtres avaient appris la langue Sindarin, un savoir important qu'ils avaient transmis à leurs enfants et qui, au fil des années, ne se modifiait guère. Et leurs sages apprirent aussi le Kenya au elfique qu'ils plaçaient au-dessus de toute autre langue. Et ils nommèrent dans cette langue beaucoup de lieux considérés comme importants ou vénérables et bien des personnages de nobles lignées et de grand renom. Parmi ces noms Kenya, citons par exemple Númenor, ou au long, Númenoré, ainsi qu'Elendil, Isildur et Anarion, et tous les noms royaux du Gondor, dont Elessar, pierre elfe. La plupart des noms des autres Dúnedain, hommes et femmes, tels Aragorn, Denethor, Gilraen, sont d'origine Sindarin, souvent empruntés à des personnages illustres, hommes ou elfes, célébrés dans les chants et les chroniques du Premier Âge, comme Beren et Húrin. Quelques-uns sont de forme mixte, comme Boromir. Mais la langue maternelle des Númenoréens demeura pour le commun des hommes celle qu'ils tenaient de leurs ancêtres, soit l'Adunaïque, auquel les rois et les grands seigneurs, gonflés d'orgueil, devaient plus tard revenir. Alors, tous délaissèrent le parler elfique, sauf les rares fidèles qui ne trahirent pas leur vieille amitié avec les Eldar. Au fait de leur puissance, les Númenoréens détenaient de nombreuses places fortes, ainsi que des havres sur les côtes occidentales de la Terre du Milieu, pour la sécurité de leurs navires. Et l'un des plus importants était Pelargir, près des bouches de l'Anduin. On y parlait l'Adunaïque, lequel, mêlé à quantité de mots issus des langues des hommes moindres, donna un parler commun qui se répandit le long des côtes parmi tous ceux qui avaient commerce avec l'Occidental. Après la chute de Númenor, Elendil ramena les survivants des Amis des Elfes au rivage du nord-ouest de la Terre du Milieu. Y habitaient déjà de nombreux hommes qui se réclamaient en partie ou en totalité d'une ascendance Númenoréenne, mais bien peu se souvenaient du parler elfique. Dès le commencement, les Dúnedain étaient en tout et pour tout beaucoup moins nombreux que les hommes moindres parmi lesquels ils évoluaient et qu'ils gouvernaient. Car c'étaient des seigneurs de grande longévité, et des hommes puissants et sages. Ils usaient donc du parler commun dans leurs rapports avec les autres peuples et le gouvernement de leur vaste royaume. Mais ils lui donnèrent une plus grande ampleur et l'enrichirent de nombreux mots issus des langues elfiques. Au temps des rois Númenoréens, cet occidentalien ennobli connut une large diffusion, même parmi leurs ennemis. Et les Dúnedain eux-mêmes l'adoptèrent graduellement, de sorte qu'à l'époque de la guerre de l'Anneau, la langue elfique n'était plus connue que d'une faible proportion des gens du Gondor. Plus rares encore étaient ceux qui en faisaient un usage journalier. Ces derniers vivaient surtout à Minas Tirith et dans les terres avoisinantes, de même que chez les princes tributaires établis à Dol Amroth. Il n'empêche qu'au royaume de Gondor, presque tous les noms de lieux et de personnes étaient elfiques, tant par la forme que par le sens. Quelques-uns d'origine inconnue remontaient sans doute à une époque où les navires des Númenoréens n'avaient pas encore pris la mer, notamment Umbar, Arnak et Erek, et les noms Eilenak et Rimon désignant des montagnes. Forlong est un autre exemple du même genre. La plupart des hommes qui habitaient les régions septentrionales des terres de l'Ouest étaient issus des Edain du premier âge ou de leurs proches parents. Leur langue s'apparentait donc à l'adunaïque, et certaines avaient encore quelques ressemblances avec le parler commun. C'était le cas des habitants des vallées supérieures de l'Anduin, les Béorniens et les hommes des bois de l'ouest de Grand-Peur. Et plus au nord et à l'est, les hommes du Long Lac et ceux du Val. Dans les terres situées entre la rivière aux Flambes et le Karok, vivait jadis un peuple que les gens du Gondor appelèrent plus tard les Rohirrim, les maîtres des chevaux. Ils avaient conservé leur langue ancestrale, aussi nommèrent-ils en cette langue presque tous les endroits de leur nouveau pays. Et ils se nommaient eux-mêmes les Éorliens, ou les hommes du Riddermark. Mais leur seigneur usait volontiers du parler commun, et ils le parlaient noblement à la manière de leurs alliés du Gondor. Car au Gondor, dans sa terre d'origine, l'occidentalien conservait un style plus raffiné et plus ancien. À ces langues, le parler des hommes sauvages de la forêt de Druadan était tout à fait étranger. Il en allait de même de celui des Dunlandais, aucunement reliés, sinon de manière très lointaine. Ce peuple était un vestige des populations qui occupaient anciennement les vallées des Montagnes Blanches. Les hommes morts de Dunhart leur étaient apparentés. Mais durant les années sombres, d'autres étaient partis s'établir dans les vallons du sud des Montagnes de Brume. Et de là, certains avaient gagné les terres désertes, aussi loin au nord que les coteaux des Tertres. Les hommes de Bri en étaient issus, mais ceux-ci étaient passés depuis longtemps sous la dépendance de l'Arnor, le royaume du Nord, et ils avaient fait de l'occidentalien leur langue usuelle. Ce n'est qu'en Dunland que les hommes de cette souche conservèrent leur parler ancien et leurs coutumes d'antan. Un peuple secret, hostile aux Dunedain, ennemi juré des Rohirrim. Leur langue n'apparaît nulle part dans ce livre, sauf pour le nom Forgoil qu'il donnait aux Rohirrim, et qui, semble-t-il, signifiait « tête de paille ». Dunland et Dunlandais sont les noms que leur donnaient les Rohirrim, parce qu'ils avaient la peau bistre et les cheveux foncés. Il n'y a donc aucun lien entre l'élément « dun » de ces noms, du vieil anglais « dune » brun foncé, et le mot gris elfique « dun » ouest. Des Hobbits. Les Hobbits du comté et de Bri avaient à cette époque, probablement depuis un millénaire, adopté le parler commun. Ils en usaient à leur manière, librement et quelque peu négligemment, bien que les plus érudits eussent encore la maîtrise d'un registre soutenu lorsqu'il était de mise. La documentation ne fait état d'aucune langue propre aux Hobbits. Ils semblent de tout temps avoir parlé les langues des hommes près desquels ou parmi lesquels ils vivaient. Aussi, à leur arrivée en Eriador, ils adoptèrent rapidement le parler commun. Et dès l'époque de leur colonisation de Bri, ils avaient déjà commencé à oublier leur ancienne langue. Il s'agissait à l'évidence d'un parler des hommes de l'Anduin supérieur, apparenté à celui des Rohirrim. Encore que les Fortaux du Sud semblent s'être servis d'une langue apparentée aux Dunlandais avant de remonter au nord dans le comté. Les Fortaux de l'Angle qui regagnèrent la contrée sauvage avaient déjà adopté l'usage du parler commun. Mais les noms Déagol et Sméagol sont issus d'une langue d'homme, parlée dans la région de la rivière aux Flambes. Au temps de Frodo, il restait encore quelques traces de cela dans les vocables et les noms régionaux, bon nombre desquels ressemblaient fortement à ceux du Val et du Rohan, notamment les noms des jours, des mois et des saisons. Plusieurs autres mots du même genre, tels Mathom et Smiol, étaient encore d'usage courant, alors que d'autres subsistaient dans les toponymies de la région de Bri et du comté. Les noms et prénoms des Hobbits étaient tout aussi particuliers, et nombre d'entre eux étaient hérités de l'ancien temps. Hobbit était le nom couramment employé par les gens du comté pour désigner tous ceux de leur espèce. Les hommes les appelaient demi-hommes et les elfes Perianath. L'origine du mot hobbit était oubliée de la plupart. Il semble toutefois que le nom ait été, en tout premier lieu, attribué aux pieds velus par les peaux blêmes et les forteaux. Il s'agirait de la déformation d'un mot ancien, mieux conservé au Rohan, Olbitla, bâtisseur de trous. Des autres peuples. Les Ents. Les Onodrim, ou Enides, étaient le plus antique des peuples encore existants au IIIe âge. Ils étaient connus des Eldar depuis les temps anciens. Et c'est d'ailleurs aux Eldar que les Ents attribuaient non pas leur propre langue, mais leur désir de parole. La langue qu'ils avaient créée ne ressemblait à aucune autre. Lente, sonore, agglutinante, répétitive et, disons-le, verbeuse. Composée d'une multitude de nuances vocaliques et de distinctions de tons et de timbres que même les maîtres du savoir chez les Eldar ne s'étaient jamais essayés à représenter par l'écriture. Ils ne l'employaient jamais qu'entre eux, mais n'avaient aucun besoin de la garder secrète, car nuls autres ne pouvaient l'apprendre. Les Ents, cependant, étaient eux-mêmes doués pour les langues, qu'ils apprenaient rapidement et n'oubliaient jamais par la suite. Ils préféraient toutefois les langues des Eldar, chérissant par-dessus tout l'ancienne langue haut-elfique. Les mots et les noms étranges que les hobbits attribuent dans leurs récits à Barbe-Bois et aux autres Ents sont donc de l'elfique ou des fragments d'elfique agglutinés à la manière Ent. Certains sont en Kenya, comme Torelilomea, Tumbale Morna, Tumbale Torea, Lomeanor, que l'on peut traduire par forêt aux maintes ombres, vallée profonde noire, vallée profonde boisée, sombre pays. Par quoi Barbe-Bois entendait plus ou moins « Il y a une ombre noire dans les profondes vallées de la forêt ». D'autres sont en Sindarin, tels Fangorn, barbe d'arbre, et Fimbrethil, mince être. Les orques et le noir parlé. La forme orque est celle que prenait le nom de ce peuple infâme chez les autres races et celle en usage au Rohan. En Sindarin, c'était Orc. Les deux sont certainement apparentés au mot Uruk, du noir parlé, bien que ce terme ne s'appliqua normalement qu'aux soldats orques qui sortirent du Mordor et d'Isengar vers cette époque. Les plus chétifs étaient appelés, en particulier par les Urukai, Snaga, esclaves. Les orques furent initialement engendrés par le pouvoir sombre du Nord aux jours anciens. On dit qu'ils n'avaient pas de langue à eux, mais se contentaient d'emprunter ce qu'ils pouvaient aux autres langues qu'ils pervertissaient comme ils l'entendaient. Mais ils n'en tiraient que de rudes jargons, à peine convenables pour leurs propres besoins, sauf en matière de jurons et d'insultes. Et très vite, ces créatures, pleines de malveillance et de haine, même envers leur propre espèce, développèrent autant de dialectes barbares qu'il y avait de groupes ou d'établissements parmi eux, si bien que leur parler orque ne pouvait guère servir dès qu'il s'agissait d'interagir avec d'autres tribus. Aussi, au IIIe âge, les orques se servaient-ils de la langue occidentalienne pour communiquer entre espèces. De fait, certaines des plus anciennes tribus, dont celles qui subsistaient dans le nord et les montagnes de brume, avaient depuis longtemps adopté le parler commun comme langue maternelle, encore qu'ils en aient fait un sabir presque aussi détestable que la langue orque. Dans ce jargon, le mot « Tark », homme du Gondor, était une forme dégradée de « Tarkil », terme kenya, désignant en occidentalien une personne d'ascendance numénoréenne. Le noir parlé aurait été inventé durant les années sombres par Sauron, qui aurait voulu en faire la langue de tous ses serviteurs. Ce à quoi il ne réussit pas. C'est néanmoins du noir parlé que venaient bon nombre de mots d'usage général chez les orques du IIIe âge, tels gash, feu. Mais après la première défaite de Sauron, cette langue dans sa forme primitive tomba dans l'oubli le plus complet, sauf chez les Nazgûl. Lors de la résurgence de Sauron, elle redevint la langue de Barad-dûr et des capitaines du Mordor. L'inscription de l'anneau était en noir parlé ancien, mais l'invective de l'orque du Mordor en est une forme dénaturée, en usage chez les soldats de la Tour Sombre, dont Grishnak était le capitaine. Sharku, dans cette langue, signifie « vieil homme ». les trolls. On s'est servi du mot troll pour traduire le Sindarin Torog. À leur apparition, dans le lointain crépuscule des jours anciens, c'étaient des créatures obtuses et maladroites, et leur langage n'était pas plus évolué que celui des bêtes. Mais Sauron s'était servi d'eux, leur apprenant le peu qu'ils étaient capables d'assimiler et les imprégnant de méchanceté afin d'aiguiser leur intelligence. Les trolls prirent donc aux orques tous les éléments de langage qu'ils pouvaient maîtriser. Ainsi, dans les terres de l'Ouest, les trolls de pierre parlaient une forme altérée du parler commun. Mais à la fin du Troisième Âge, une race de trolls, jusqu'alors inconnue, fit son apparition dans le sud de Grand-Peur et aux lisières montagneuses du Mordor. En noir parlé, ils se nommaient les Olog-Ai. Nul ne doute que Sauron les avait engendrés, bien qu'on ne sût pas à partir de quelle souche. D'aucuns prétendaient qu'il s'agissait non pas de trolls, mais d'orques géants. Mais les Olog-Ai étaient, de corps et d'esprit, d'une tournure tout à fait dissemblable aux orques, même ceux des grandes espèces, qu'ils surpassaient largement par la taille comme par la force. C'étaient bien des trolls, mais ils étaient pénétrés de la malveillance de leur maître. Une race cruelle, agile, puissante, féroce et rusée, mais plus dure que la pierre. Contrairement à l'ancienne race du crépuscule, ils supportaient la lumière du soleil, pourvu que Sauron les tint sous l'emprise de sa volonté. Ils parlaient peu, la seule langue qu'ils connaissaient étant le noir parlé de Barad-dûr. Les nains. Les nains forment un peuple à part. Leur étrange genèse et le pourquoi de leur ressemblance et dissemblance avec les elfes et les hommes sont racontés dans le Silmarillion. Mais les elfes mineurs de la Terre du Milieu n'avaient pas connaissance de ce récit, tandis que les récits des hommes venus après brossent un portrait faussé par le souvenir d'autres races. Ce sont, en règle générale, des gens coriaces et biscornus, secrets, laborieux, qui longtemps gardent souvenir des injures, mais aussi des bienfaits, et qui aiment la pierre, les gemmes et les choses qui prennent forme sous la main des artisans plutôt que celles qui vivent de leur vie propre. Mais ils ne sont pas malfaisants de nature, et rares sont ceux qui ont servi l'ennemi de leur plein gré, quoi qu'aient pu raconter les hommes. Car les hommes d'autrefois convoitaient leurs richesses et les ouvrages de leurs mains, et les deux races ont parfois été ennemies. Mais au Troisième Âge, l'amitié fleurissait encore en mains endroits entre les hommes et les nains. Et il était dans la nature des nains, lorsqu'ils voyageaient, travaillaient et commerçaient de par les terres, comme ce fut le cas après la destruction de leurs antiques palais, d'employer les langues des hommes parmi lesquelles ils évoluaient. Mais en secret, secret que, contrairement aux elfes, ils ne révélaient pas volontiers même à leurs amis, ils parlaient l'étrange langue qui était la leur et qui ne changeait guère avec les années. Car c'était devenu une langue d'érudition plutôt qu'un parler appris à la naissance, qu'ils entretenaient et conservaient comme un trésor du passé. Peu de gens des autres races réussirent jamais à l'apprendre. Dans le présent récit, elle n'apparaît que dans les noms de lieux que Gimli voulut bien révéler à ses compagnons, et dans le cri de guerre qu'il lança au siège de la Ferté-au-Cor. Ce cri, du moins, n'était pas secret, ayant été entendu sur maints champs de bataille depuis le commencement du monde. « Baruk Kazad, Kazad Aïmenu. Les haches des nains, les nains sont sur vous. » Le nom de Gimli, toutefois, et ceux de toute sa famille, sont d'origine nordique, issus des langues des hommes. Leur nom secret ou intérieur, leur nom véritable, les nains ne les ont jamais révélés à quiconque n'était pas de leur race. Ils ne les inscrivent même pas sur leur tombe.